Bonjour, c'est bien ici la bibliothèque municipale?
Oui, monsieur, c'est ici.
Waouh, c'est beau, hein? C'est super bien décoré, c'est vraiment beau, oui.
Est-ce que je peux vous aider?
Ah ben, vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben, je peux de ça à personne.
Pour ça, je dis jamais rien. C'est un vrai piège à con, cette histoire-là. En plus, je sais pas lire.
Bienvenue dans votre émission Des livres et fous sur Principe Actif en compagnie des bibliothécaires du sud de l'Eure. On va faire un petit tour de table pour cette nouvelle année. Pauline,
bonjour à tous, bonne année.
Anne-Marie,
bonjour, bibliothèque de Danville. Alors, je vous souhaite à tous de beaucoup de cœur littéraire cette année. Encore.
Amélie,
bonjour à tous, nos meilleurs vœux et notre collègue de Breteuil.
Priscille, c'est moi, bonne année à tous. Cette fois-ci, pour bien démarrer cette année, nous vous présentons quelques coups de cœur sortis en 2018. On fait les choses simples pour cette fois-ci. Ce sera des romans, une série, un peu de musique aussi. Et du coup, je laisse la parole à Amélie pour commencer, après un petit jingle.
Oh, c'est dingue, t'aimes pas lire. T'as pas lu Proust? Oh là là, je te crois pas.
Alors, pour mon petit coup de cœur de l'année 2018, je vais vous parler d'un roman sorti à la rentrée littéraire. Donc, c'est un premier roman qui a beaucoup fait parler de lui et qui a eu pas mal de succès. Il s'agit de La vraie vie d'Adeline Dieudonné, qui est paru aux éditions L'Iconoclaste, donc pour septembre 2018. Ce roman, il a été mis sur les listes de présélection du Goncourt, prix qu'il n'a pas reçu, mais il a quand même eu deux prix assez importants, le prix Renaudot des lycéens et le prix du roman FNAC. Donc cette petite présentation, je vais vous le faire en deux temps, en fait. Je vais vous faire une petite partie de résumé, mais je vais le ponctuer avec des extraits du livre, pour que vous soyez vraiment baigné dans l'ambiance et que ça fasse écho à ce que je vous présente. Donc on est au niveau du cadre familial dans une ambiance très pesante. On a une mère qui est complètement effacée et insoumise, c'est tout le contraire. Un père chasseur, braconnier et très violent envers sa femme, qui collectionne les animaux empaillés. Un garçon, un petit Gilles qui a 6 ans, et la narratrice, la grande sœur de 10 ans. Donc Gilles et la grande sœur ont une réelle complicité. C'est vraiment un amour très profond entre un frère et une sœur. Et en fait, régulièrement, à peu près une fois par semaine, ils s'échappent de chez eux afin de sortir de cette violence familiale qui est très pesante et lourde. Et ils vont jouer à la décharge. Et chaque retour de décharge, ils s'arrêtent au glacier pour prendre leur glace. Voilà, c'est un petit rituel qu'ils ont une fois par semaine et un moment de partage où ils s'évadent vraiment de chez eux. Jusqu'au jour où, malheureusement, cette sortie banale va virer au cauchemar. Les yeux du petit Gilles, donc de seulement 6 ans, voient ce qu'il n'aurait jamais dû voir. Je vous lis un petit résumé, donc c'est page 17 du roman, où vous allez pouvoir avoir un aperçu de la complicité vraiment très importante de ce frère et cette sœur. J'aimais m'endormir avec sa petite tête juste sous mon nez, pour sentir l'odeur de ses cheveux. Gilles avait 6 ans, j'en avais 10. D'habitude, les frères et sœurs, ça se dispute, ça se jalouse, ça crie, ça chouine, ça s'étripe. Nous pas. Gilles, je l'aimais d'une tendresse de mère. Je le guidais, je lui expliquais tout ce que je savais, c'était ma mission de grande sœur. La forme d'amour la plus pure qui puisse exister. Un amour qui n'attend rien en retour. Un amour indestructible. Il riait tout le temps, avec ses petites dents de lait. Et à chaque fois, son rire me réchauffait, comme une mini centrale électrique. Alors, je lui fabriquais des marionnettes avec de vieilles chaussettes, j'inventais des histoires drôles, je créais des spectacles juste pour lui. Je le chatouillais aussi, pour l'entendre rire. Le rire de Gilles pouvait guérir toutes les blessures. Voilà, donc c'est vraiment une jeune fille qui outrepasse son rôle de grande sœur et qui est quasiment voilà, une mère, une deuxième maman pour ce petit garçon. Donc, suite à leur balade à la décharge, donc le petit Gilles va vivre un vrai drame. Et la narratrice voit au fur et à mesure du temps qui s'écoule le comportement de son frère changer. Il se renferme, il devient complètement inexpressif et il passe ses journées dans la chambre des cadavres. Donc il faut savoir que la chambre des cadavres, c'est le nom qui a été donné à la chambre dédiée aux animaux empaillés que son père collectionne. Voilà. Donc, pour juste vous donner un petit aperçu du comportement de Gilles très changeant, j'ai un petit passage qui est très révélateur, qui est page 61. L'été suivant est arrivé. L'état de Gilles ne s'était pas amélioré. Le vide de ses yeux s'était peu à peu rempli d'un truc incandescent, pointu et tranchant. Ce qui vivait à l'intérieur de la hyène avait progressivement migré vers la tête de mon petit frère. Une colonie de créatures sauvages s'y était installée, se nourrissant des lambeaux de sa cervelle. Cette armée grouillante pullulait, brûlait les forêts primaires et les transformait en paysages noirs et marécageux. Je l'aimais, et j'allais réparer tout ça. Rien ne pourrait m'en empêcher. Même s'il ne jouait plus avec moi, même si son rire était devenu aussi sinistre qu'une pluie acide sur un champ de coquelicots. Je l'aimais comme une mère aime son enfant malade. Son anniversaire, c'était le 26 septembre. J'ai décidé que tout devrait être prêt pour ce jour-là. Voilà. Donc avec toute l'innocence d'une enfant de 10 ans, la narratrice décide de remonter le temps, comme dans le film Retour vers le futur qu'elle a vu et dont elle s'inspire, pour modifier le passé et échapper à la réalité. Donc voilà pour le livre. Comme vous pouvez le voir, au niveau des petites lectures, le style d'écriture n'est pas du tout compliqué. Mais les mots et les métaphores sont soigneusement choisis pour que ça ait énormément d'impact sur le lecteur. C'est un roman qui se situe entre la poésie de l'enfance et aussi le drame social. C'est vraiment un roman coup de poing qui ne vous laisse pas indifférent, mais qui laisse la part belle à une complicité et un amour inconditionnel entre un frère et une sœur. Et c'est ce qui nous permet aussi d'aller plus loin dans ce roman qui est vraiment très dérangeant et même parfois morbide. Voilà, on n'a quand même pas envie de le lâcher. On veut vraiment aller jusqu'au bout en espérant qu'il y ait une fin heureuse. Et si vous voulez connaître la fin, n'hésitez pas à l'emprunter. Il est disponible dans les bibliothèques de Danville, Bourte, pour notre collègue qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui l'a dans ses rayons, et donc à Breteuil et en librairie, bien entendu.
Alors moi, j'aurais peut-être une petite question.
Oui.
Cette chose que voit le petit frère, on ne le sait pas, on le découvre en allant avec la grande sœur, ça fait partie du mystère
Non, on le sait dès le début du livre.
D'accord.
En fait, on le sait dans les premiers chapitres, mais je ne le révèle pas parce que je pense que si on le dit, déjà on est coupé dans l'élan parce ouais. qu'on sait ce qui se passe derrière. Et ça fait vraiment partie de la continuité, elle revient plusieurs fois dessus,
D'accord.
la jeune fille. Donc voilà, je laisse le suspense.
Merci.
Donc je vais laisser la parole à ma collègue Anne-Marie de Danville pour vous présenter à son tour son coup de cœur.
Alors, moi j'ai choisi Mon amie Adèle de Sarah Pinborough. Donc Sarah Pinborough est scénariste pour la BBC. Donc ce roman est paru aux éditions Prélude. C'est un premier thriller numéro 1 des ventes dans le Sunday Times. Donc Louise est une jeune maman divorcée et un soir, après avoir bu, elle embrasse un homme dans un bar. Et drôle de surprise le lendemain, l'inconnu rencontré la veille n'est autre que David, le nouveau psy du cabinet médical où elle va travailler à mi-temps. Donc, bon, situation un petit peu délicate parce que David est marié à Adèle, qui est une épouse parfaite, mais délaissée. Et peu à peu, David s'attache à Louise. Adèle devine la situation et elle veut à tout prix, donc là c'est un peu curieux, devenir l'amie de Louise. Alors, donc Louise se trouve tiraillée entre les deux, elle est sincère, hein, ça, il n'y a pas de doute. Elle est fascinée aussi par ce couple étrange et donc elle va se retrouver piégée. Que va faire David ? Adèle est un mystère. Voilà. C'est pareil, je ne vais pas en dévoiler trop parce qu'il y a quand même un climat dans ce livre, une tension permanente. L'écriture est simple puisqu'on alterne entre les personnages et on sent aussi l'étau l'étau se resserrer. Au fur et à mesure, le pulse s'assemble, ce qui en fait donc un thriller psychologique. L'auteur explore l'âme humaine à travers ce huis clos. Qui manipule qui et pourquoi ? Vous n'êtes certainement pas préparé à la fin, alors ça, pas du tout. C'est glaçant et même très surprenant. Voilà. C'était mon coup de cœur de 2018 et j'avais aussi remarqué La vraie vie qu'a présenté Amélie. Ce sont des romans assez qui ne laissent pas indifférents. Disons qu'on ne va pas dire qu'on a du mal à s'en remettre, mais il faut le digérer.
Ils sont gênants. Ils ont voilà, un côté gênant et dérangeant qui nous remettent en question.
Et ça n'a pas l'air comme ça, parce que bon, souvent, voilà, les thrillers, ce sont des couvertures sombres. C'est bien annoncé. Là, celui-ci est très soft, donc on ne s'attend pas au contenu.
Oui, quand tu nous dis les scénarios, effectivement, ça reste assez classique comme scénario. Du coup, ça donne peut-être un peu plus envie de le lire. On se dit que tiens, pour une fois, ça va peut-être changer, justement. Pour La vraie vie, moi, j'ai pas réussi à m'en remettre. Hein.
De quoi bien commencer donc l'année 2019.
C'est ça.
Et donc, mon amie Adèle est disponible dans les bibliothèques de Danville et de Verneuil, sur Havre. Donc, n'hésitez pas à les demander. Et on va écouter tout de suite Ed Sheeran. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, your when you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. I'm
Donc on a commencé cette émission Coup de cœur 2018 avec deux romans, donc La vraie vie d'Adeline Dieudonné que je vous ai présenté et que vous pouvez retrouver à Danville, Bourthe, Breteuil, et Mon amie Adèle présentée par ma collègue de Danville, de Sarah Pinorou, je sais pas. Oh, bah voilà, avec l'accent c'est tellement mieux, que vous pouvez retrouver à Danville et à Verneuil. Et je vous laisse en compagnie de Priscille pour une petite série télé.
Et oui.
Et oui, une série pour changer, je vais vous présenter The Crown. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette série. Elle passait sur Netflix à partir de 2016 et elle parle du coup du règne d'Elisabeth II depuis ses débuts. Nous, c'est une lectrice qui nous avait demandé cette série et du coup, on a mis nos yeux devant l'écran pour voir ce que ça donnait. Et j'ai été agréablement surprise. C'est vraiment une série qui nous montre les envers du décor de la couronne anglaise. On voit la famille royale en photo et on se demande, voilà, leur vraie vie, il n'y en a pas au final. Et là, on voit justement toutes les interrogations que les protagonistes peuvent avoir. Et aussi tout le contexte politique. Et ça, c'est super intéressant, notamment le personnel de Churchill qui est extraordinaire dans la série et qui m'a beaucoup fait comprendre le contexte économique, notamment de l'Angleterre. Pour la première saison, c'est années 30 jusqu'aux années 50. Ouais, j'ai vraiment, vraiment accroché. Pauline dirait que la série manque peut-être de rythme.
C'est un sûr peu lente,
que,
ouais,
voilà, c'est pas une série d'action. Mais il y a un savant mélange en tout cas d'histoire, de politique et de relations humaines. Et on voit une Elisabeth II qui est vraiment humaine et coincée dans son rôle de reine en fait, qui peut rien laisser montrer. Et c'est vraiment très intéressant. Pour vous en dire un peu plus sur cette série, elle a été créée par Peter Morgan qui avait fait le film The Queen notamment. Donc il a décidé d'aller un peu plus loin dans le sujet et d'en faire une série. Ils se basent sur vraiment des faits réels. Ils ont vraiment fait énormément de recherches pour cette série. Ils ont aussi recréé notamment le mariage d'Elisabeth II au plus réel. Les costumes aussi sont vraiment ultra réalistes. Ça fait d'ailleurs le plus gros budget du film parce que la série quand même a un budget de... je ne l'ai pas marqué, mais...
je ne sais plus, mais c'est un chiffre.
Ouais, c'est sympa. et du coup, voilà, c'est notamment les reconstitutions historiques et les costumes qui font le plus gros budget du film. Pour les acteurs, on retrouve Claire Foy, que je ne connaissais pas dans le rôle d'Elisabeth II. Elle a eu le Golden Globe de la meilleure actrice pour une série en 2017. C'est clairement bien mérité. On retrouvera par contre pour la saison 3 et 4 Olivia Colman qui est dans la série Broadchurch, qui fait la policière de la série Broadchurch. C'est elle qui fera le rôle d'Elisabeth II du coup quand elle sera un peu plus âgée. Ils peuvent pas garder les mêmes personnages. On retrouve John Lithgow pour Churchill et donc une série au départ Netflix. Voilà, donc à découvrir pour en savoir un peu plus sur cette famille royale et pour parfaire ses connaissances ou avoir envie d'en savoir un peu plus sur le contexte historique et politique de l'Angleterre. C'est vraiment chouette.
Et alors, il paraît que même la vraie Elisabeth II regarde la série.
Oui, alors...
Elle a un abonnement Netflix.
Ce que j'ai su, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, la famille royale n'a pas eu son mot à dire pour la série. Ils ont fait la série sans leur consentement. Après, ils sont tellement fidèles et ils transcrivent des personnages vraiment humains. Je pense que ça leur sert. Voilà.
Ouais, enfin, quand on voit. Y a quand même, c'est quand même. Pour les premiers épisodes que j'ai vus, la relation entre Elisabeth et son mari, je ne me souviens plus du nom.
Le prince
très controversé.
Oui. Voilà.
Et encore plus pas... pour la sœur d'Elisabeth II qui était.
Donc on voit leur côté
plutôt
humain.
Plutôt volage.
Mais on voit aussi leurs défauts, quoi.
Il y a le côté humain. Après, on voit dans la série tout ce qui est sorti dans les journaux aussi pendant toutes ces années. Donc c'est vrai que nous, on n'y était pas parce que c'était peut-être trop tôt pour nous. Mais en tout cas, les journaux l'ont. avait décrit tous ces passages-là. Tout était connu du grand public. Tout ce qui a été dit dans la série était connu du grand public. Ce qu'ils ont par contre forcément inventé, c'est les discussions que les protagonistes ont entre eux, parce que ça, forcément, ouais, c'était pas sûr dans les journaux. Ce qui se passait à Buckingham Palace, heureusement, nous n'en savons rien. Mais non, fidèle. Enfin, je pense fidèle. Après, je sais pas si elle pensait exactement ça, mais on imagine tout à fait une reine avoir ses discours ou ses interrogations dans la vraie vie. C'est assez prenant. Voilà.
Et juste une question, y a-t-il des images d'archives du coup insérées?
Il y a quelques images d'archives et souvent en fin d'épisode, il y a une petite phrase pour expliquer comment ça s'est passé à la suite. Il parle par exemple du grand brouillard qu'il y a eu après la guerre en Angleterre, qui a emmené en fait toute la pollution des centrales en pleine ville de Londres pendant 4 jours. Il y a eu plusieurs milliers de morts à cause de ce brouillard polluant. Et on nous dit justement, à la fin, on a les sous-titres qui nous expliquent que ça a eu lieu de telle date à telle date et qu'il y a eu tant de morts, etc. Donc il y a le côté vrai,
ouais, c'est bien
qui
documenté,
est toujours appuyé. Mmh. Voilà.
Et alors, pour rester sur le thème de l'amour, plus ou moins, il me semble, Anne-Marie, qu'il va y avoir quelque chose de prévu à la médiathèque de Danville pour la Saint-Valentin.
Alors, plus particulièrement à la salle des fêtes, donc voilà, une projection d'un film de Pierre Etex que l'on peut redécouvrir. Le titre est Le Grand Amour, dans le cadre de la Saint-Valentin, donc le jeudi 14 février à 21h.
D'accord, donc à la salle des fêtes de Danville.
Pour se faire une soirée en amoureux après le restaurant, voilà, à la médiathèque de Danville, devant un film. C'est moins long.
Une petite réservation sera nécessaire ou pas? On peut se présenter.
Non.
D'accord.
Alors, tout de suite, on va poursuivre en chanson avec LSD.
Oh,
Alors, on vient d'écouter LSD avec Thunderclans. Et donc, c'est à mon tour de vous présenter mon coup de cœur pour 2018. Donc, moi, c'est un manga qui s'appelle The Promised Neverland, qui est donc sorti l'année dernière. Le premier tome est sorti l'année dernière. Donc, pour vous planter un peu le décor. Le décor, merci, je ne trouvais plus le mot. ça se passe à Gracefield House, où les enfants de 0 à 12 ans sont heureux. Ils vivent tous ensemble dans une grande bâtisse entourée de forêts, passant des tests le matin et jouant tout l'après-midi. Certes, ils sont orphelins, mais l'absence des parents est comblée par Elisabeth. Alors, elle ressemble un peu à une nurse anglaise. Et elle veille sur eux avec bienveillance et il l'appelle même maman. Donc, ces petits orphelins vivent malgré tout une enfance comblée et insouciante jusqu'à ce qu'ils soient adoptés. Et justement, le tome 1 débute avec l'adoption de la petite Connie, 6 ans. Elle fait ses adieux aux autres enfants et, toute joyeuse, elle suit maman jusqu'au portail de Gracefield House pour rencontrer sa nouvelle famille. Mais, parce que, bah oui, il faut bien un mais, lorsque Emma et Norman, les deux des aînés de l'orphelinat, trouvent le doudou abandonné de Connie, ils décident d'aller jusqu'au portail pour rendre la peluche à la petite. Pas question qu'elle parte sans. Et ça se corse. Ils découvrent le corps sans vie de la fillette, une sorte de fleur très bizarre qui lui transperce la poitrine. Et plus loin, maman, en pleine conversation avec des démons, incroyablement hideux. Ils les entendent parler de viande, d'élevage, de marchandises. Et là, Emma et Norman comprennent la vérité derrière Gracefield House. C'est en fait un enclos fermé qui sert d'élevage en plein air d'enfants pour nourrir des démons à la recherche de viande de haute qualité.
Bon secours.
Ça donne envie.
Ouais.
Et ça, c'est seulement le résumé du premier chapitre sur les 7 que compte le premier tome de The Promised Neverland. Une série qui, pour l'instant, compte 5 tomes parus en France et 11 au Japon. Pour l'instant, ils en prévoient entre 20 et 30. Donc, croyez-moi, je ne vous ai rien spoilé du tout. Alors, pour être honnête, moi, les mangas, je suis absolument pas fan. Alors, mais celui-là, c'est une copine qui me l'a conseillé. Et c'est le premier auquel j'accroche complètement, c'est même un euphémisme. Le rythme de l'histoire est effréné, le suspense insoutenable et l'univers cauchemardesque.
Quand on voit la couverture, on dirait pas.
Non, du tout, hein, ils ont l'air bien mignons, tous ces petits enfants heureux, et le début, c'est, voilà, on a l'impression. Et ça vire très vite au cauchemar.
Et du coup, tu conseillerais à partir de quel âge? Alors, parce que ça a l'air d'être assez dur quand même.
Voilà, en fait, c'est publié chez Kazé, dans la collection Shonen. Alors, si vous n'êtes pas familier au terme des mangas, Shonen, c'est plutôt pour un public masculin et de jeunes adolescents, mm-hmm. entre 10 et 15 ans. Sauf que je ne le conseille absolument pas pour ce public-là. Bon, déjà, c'est un manga qui peut aussi bien plaire aux filles qu'aux garçons. J'en suis la preuve. Mais surtout, c'est pas pour les ados. L'univers de The Promised Neverland est vraiment tordu. Et ça va crescendo de tome en tome. Alors certes, la représentation des démons est vraiment flippante. Hein. Mm-hmm. Alors, je suis un peu nunu sur tout ce qui fait peur, mais ils font vraiment peur. Mais c'est pas ce qui est le plus flippant. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Vol au-dessus d'un nid de coucou. Il y a l'infirmière Ratchet qui tortue, enfin qui est vraiment... qui fait peur. Pour ceux qui l'ont vu, mais alors là, c'est rien du tout comparé à Maman, qui est incroyablement effrayante. Donc bref, moi, je conseillerais plutôt ces mangas pour des jeunes adultes et adultes. Et même si, comme moi, vous n'êtes absolument pas fan de mangas, mais que vous accrochez, voilà, je pense, on parlait de séries, si vous accrochez aux séries et aux rebondissements assez épisodiques, bah, ce manga est complètement fait pour vous, ça n'arrête jamais. On peut peut-être le comparer à l'univers un peu de Stranger Things. Je ne sais pas si vous connaissez aussi sur Netflix, avec cette bande de gamins et un univers assez, assez cauchemardesque aussi. Hein, c'est pas...
Bon, bah, s'il est comme ça pour le premier tome, ça
s'annonce... Les autres, ça continue comme ça.
Ça s'annonce bien pour la suite. Hein,
voilà, exactement. Non, c'est vraiment un très très bon manga pour adultes.
À ne pas lire avant de se coucher.
Voilà, il faut s'accrocher. Tout à fait.
Et en parlant de avant se coucher, il y a la nuit de la lecture au mois de janvier. Et je crois que Pauline Verneuil, vous participez. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Alors, ça fera moins peur. Donc, en effet, la médiathèque de Verneuil participe à la nuit de la lecture. Donc, ce sera le 19 janvier de 19h30 à 23h. Donc, la médiathèque sera exceptionnellement ouverte. Et on vous propose plusieurs activités. Il y aura d'abord à 20h un concert d'une pianiste accompagnée d'un baryton. Et il y aura aussi des lectures de poèmes. Tout ça sera autour du thème de la poésie. Il y aura également dans la section jeunesse des jeux dans le noir. Donc la salle sera complètement plongée dans le noir et les jeux sont phosphorescents.
Oh, super.
Ça peut être très intéressant. Donc ça, c'est pour un public à partir de 6 ans. Et si vous avez envie de vous détendre après votre journée, dans la section adulte, il y aura des espaces relaxants de lecture avec petite musique sonore, des boissons chaudes pourront vous être servies avec des petits gâteaux. Donc voilà.
Génial. Ça donne envie.
Donc on vous donne rendez-vous le 19 janvier de 19h30 à 23h à la médiathèque de Verneuil.
On peut réserver son transat ?
Absolument pas.
Zut. Premier arrivé, premier servi.
Exactement. Pas de réservation et tout est gratuit. Vous avez juste à venir.
Merci Pauline pour toutes ces infos.
Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père ? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle ? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle.
Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin.
Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme.
Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur.
Acheter des tableaux
et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler.
Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre,
un peu patriotard.
Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région,
c'est pire qu'une religion au-delà d'une confession.
Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un vernis Chabrol,
un petit goût de gnôle.
Les yeux de nos grands-mères,
la voix de nos grands-pères.
L'odeur de cette terre,
plus sur les monétières.
C'est pire qu'un testament, au-delà d'une convidence. On est les petits enfants de ce joli coin de France.
La relève est pour toi, notre petit Lika. On te laisse en héritage la piste, nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête.
Acceptez ma rengaine,
elle veut juste dire je t'aime.
Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter.
D'être avec vous ce soir,
j'ai le cœur qui pétille.
Mimi, sers-nous à boire.
On a les yeux qui brillent.
Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter.
D'être avec vous ce soir,
j'ai le cœur qui pétille.
Mimi, sers-nous à boire,
on a les yeux qui brillent.
Vous venez d'entendre 3 cafés gourmands avec le morceau « À nous souvenir ». Pauline vous a présenté un manga dont le titre est The Promised Neverland de Kaeu Shirai. Disponible à Verneuil et en librairie.
Alors non, on ne l'a pas non plus à Verneuil, mais c'était mon coup de cœur. Donc je voulais quand même vous en parler. Donc vous pouvez le trouver en librairie.
D'accord, donc il n'est pas à Verneuil, mais vous allez peut-être l'acheter.
Peut-être.
Pour ma part, je vous présente mon petit coup de cœur 2018, un roman, on pourrait presque dire un roman normand. L'auteur est néerlandais, Stéphane Hertmans, mais l'intrigue se passe en partie en Normandie parce que le personnage principal est une femme du Moyen-Âge qui vivait à Rouen. Il s'agit du Cœur converti, édité chez Gallimard, donc sorti cette année en septembre. Stéphane Hertmans est très doué pour faire des romans à partir d'un fait réel. Il avait écrit notamment un livre sur la guerre à partir des écrits de son grand-père, je crois, ou grand-oncle, qui avait été assez poignant apparemment, il faut vraiment que je le lise. Et celui-ci, il est fait à partir de documents qu'il a retrouvés grâce à sa maison de vacances à Monieux, un petit village provençal. Alors je vais essayer de vous en dire un petit peu plus. Voilà, alors... Il s'agissait, il a appris en fait quand il est arrivé à Monieux que cette ville, ce village avait été le théâtre d'un pogrom, donc une extermination de juifs pendant les croisades, donc il y a 1000 ans, et qu'un trésor y avait été caché à peu près dans cette période-là, et en fait tout le monde continue à parler de ce trésor aujourd'hui. Donc il part à la recherche d'indices. Il tombe sur une lettre de recommandation qui avait été écrite à l'époque et qui a été découverte dans une synagogue du Caire parlant d'une jeune noble normande, donc notre protagoniste, du XIe siècle, convertie par amour à un fils de rabbin et qui aurait trouvé refuge à Monieux. Donc il y a tout ça dans la lettre de recommandation au Caire, alors qu'on est dans un village à Monieux et que l'auteur est néerlandais. Voilà, pour vous faire un petit résumé, ça fonctionne vraiment bien. Alors ce document trouvé au Caire, il est aujourd'hui à la bibliothèque, en Angleterre. C'est pas la grande bibliothèque. Bref, je vais retrouver. Cambridge. Voilà, il est aujourd'hui à Cambridge. Donc il s'est basé là-dessus pour faire ce roman. En fait, il était très perplexe de ce qu'une jeune Normande convertie ait sa trace jusqu'au Caire. Et il a décidé en fait, d'écrire son histoire à partir de tous les détails qu'il a réussi à trouver. Il a notamment trouvé des documents expliquant qu'une jeune femme, il est quasiment certain que c'est la même, avait été poursuivie par sa famille jusqu'à Narbonne. Donc, il va écrire l'histoire de Vigdis, cette jeune femme qui donc est fille de Viking, de Normand Viking et d'une femme normande, donc d'une famille assez noble, qui tombe amoureuse du coup d'un étudiant de la yeshiva de Rouen, qui s'appelle David. Sa famille, bien sûr, est contre un éventuel mariage, parce que les juifs étaient quand même particulièrement mal vus déjà à l'époque, et ils décident de s'enfuir. On voit leur fuite de Rouen jusqu'à Narbonne, puis jusqu'à Monieux en Provence, où il va du coup, on va avoir l'écrit de ce fameux pogrom. Et à partir de là, cette jeune femme va continuer son voyage seule jusqu'au Caire. C'est un roman qui est assez puissant. Alors au départ, on voit deux jeunes pleins d'amour, etc., qui essayent de fuir. Donc on a vraiment toute la Normandie et la France même à l'époque, il y a 1000 ans. Et ensuite, vous allez voir, le roman prend en intensité. Y a des moments qui sont très difficiles, c'est très dur. On parlait de romans qui étaient assez poignants. C'est ça, c'est pas dur à lire. Faut essayer de s'y retrouver à certains moments, mais c'est vraiment poignant. Et du coup, on s'attache vraiment à cette femme, vraiment par moments complètement perdue. Pour vous en dire un petit peu plus, j'ai un extrait qui donc là c'est le l'auteur Stéphane Hartmans qui parle à la première personne, qui du coup a quelques indices et ne sait pas trop comment il va faire pour écrire la fuite. Le seul écrit qui raconte leur sort fait partie de la collection de manuscrits de l'Université de Cambridge, mondialement connue sous le nom de Cairo Geniza Collection. Il s'agit d'un document vieux de près de 1000 ans, en hébreu, que je tiendrai moi-même entre mes mains après toutes sortes de pérégrinations. Ce document précise, entre autres, que David et Vigdis sont arrivés à Narbonne en l'an 1090, 900 kilomètres à travers la France de l'époque, en se heurtant sur le chemin à d'innombrables obstacles et dangers. Ces deux jeunes gens qui ont pris le mort aux dents font, en fait, preuve d'une grande audace. Ils savent que des chevaliers se lanceront aussitôt à leur poursuite pour retrouver leurs traces, les faire prisonniers et les ramener. Leur vie, à ce moment-là, ne vaut plus rien. Lui peut s'attendre à la peine de mort pour enlèvement, et elle a une vie dans un cloître austère, du moins si elle n'est pas accusée de pratiques diaboliques. Dans ce cas, ce sera le bûcher. Dans ma voiture, à la sortie de Rouen, je vois les mouettes voler au ras de l'eau dans le petit port. Sur le grand pont qui enjambe la Seine, une file interminable de voitures et de camions avance lentement en direction d'Évreux et d'Orléans. J'essaie d'imaginer par cette claire matinée de printemps de quelle manière deux personnes fuyant dans le plus grand secret ont pu atteindre l'autre rive de ce large fleuve qui a constitué leur premier obstacle. Ensuite, quel immense trajet, à pied ou à cheval. Cela paraît insensé, mais j'ai envie de voir le paysage de mes propres yeux, de m'imprégner des détails, des panoramas possibles. Je veux découvrir ce qui peut encore être visible après un millénaire. Presque rien, en fait. Voilà pour cet extrait, où là, c'est vraiment l'auteur, du coup, qui nous parle, et on le voit avec ses interrogations. Et c'est donc le récit entier est entrecoupé de passages où c'est lui qui prend la parole. Et alors, ce qui est beau, c'est que le lien entre son histoire et ses interrogations se ferait pratiquement dans une même phrase, ou en tout cas dans un même paragraphe, où la fiction prend part sur la réalité. Du coup, on a vraiment l'impression que c'est vrai et que cette histoire s'est vraiment déroulée de cette manière. En tout cas, tout est écrit de manière à ce que ce soit possible, historiquement parlant. Et du coup, ça en fait un texte vraiment, vraiment poignant et un beau témoin de l'époque. J'ai appris des choses aussi avec ce roman, notamment sur le départ des croisades. Voilà. Je ne sais pas si je peux vous en dire plus, mais voilà. En tout cas, je ne sais pas si ça vous a donné envie. La couverture donne beaucoup envie. On voit vraiment une femme avec une longue tresse sur le corps. Il y a un côté très romanesque. Alors vous verrez, le côté romanesque, c'est vraiment dans la première partie. Ensuite, c'est plus délicat, mais ça vaut vraiment le détour.
Bah merci pour cette présentation. Il me semble qu'à Breteuil, il va aussi avoir des animations bientôt.
Oui, il va y avoir la semaine du numérique. On participe à la semaine du numérique avec beaucoup de bibliothèques du département de l'Eure, en partenariat avec la médiathèque départementale. Et donc nous, les animations se dérouleront les deux samedis de cette semaine, le samedi 2 février et le samedi 9 février.
Oui, donc la semaine du numérique commence le 2, donc pour notre première animation, et se termine le 10. Donc nous, on termine ça le samedi 9. On va vous proposer plusieurs choses et pour différents publics. Donc en commençant le samedi 2 février par un petit atelier parents-enfants sur le thème de comment bien grandir avec les écrans. Donc destiné aux 0-5 ans. Ce sera donc un atelier animé par Isabelle Leroy, qui est coach familial et qui sera là du coup pour mener avec donc les parents et les enfants une petite réflexion autour de leurs pratiques courantes avec les écrans. et aussi apporter voilà, quelques conseils, tout en ayant un regard bienveillant et pas du tout culpabilisant voilà, sur vos pratiques. C'est vraiment à venir, pour venir pour découvrir de nouvelles choses et certainement en apprendre plein d'autres. Donc le samedi 2 février à 10h30 à la médiathèque de Breteuil et ça durera à peu près une heure. Voilà.
Le deuxième atelier, le même jour, se déroulera l'après-midi à 14h. Cela durera 2h. On proposera un petit goûter à la fin pour les participants. Et cette fois-ci, c'est pour les ados. Intitulé « Le numérique, c'est ma vie », les adolescents font partie aujourd'hui de la population qui est vraiment... où toute la vie tourne autour des écrans d'une manière ou d'une autre.
Les connectés.
Voilà. Beaucoup plus que nous, qui pourtant n'étons pas si vieilles que ça. Donc cette fois-ci, Isabelle Leroy donc, sera aussi là pour parler avec les ados, initier des réflexions sous forme de jeux, de théâtre, de mise en scène, voilà, pour vraiment parler librement de leurs pratiques, les uns et les autres, ensemble, et pour qu'on puisse parler aussi des limites des écrans, parce qu'il y a un moment donné où ça peut peut-être faire du mal, ou en tout cas dépasser certains cadres, donc ça permettra de s'en rendre compte peut-être un peu plus. Voilà, donc un peu de prévention peut-être, mais sous forme...
Ludique
ou en tout cas agréable et plus avec un regard, comment dire...
Bienveillant,
mais aussi apprendre aux enfants à avoir un regard critique. Oui. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée.
Et donc, on terminera donc, cette semaine du numérique le samedi 9 février par un atelier création et impression 3D. Donc oui, vous ne rêvez pas, dans les locaux de la médiathèque de Breteuil, il y aura une imprimante 3D que vous pourrez venir voir en vrai. Voilà, avec toutes les questions qu'on se pose, parce qu'on sait théoriquement comment ça fonctionne, mais comment ça se passe en pratique, nous pourrons le découvrir. Donc c'est un atelier destiné aux enfants à partir de 10 ans.
Ou adultes.
Adultes aussi, qui commencera à 15h et qui durera 2h. Attention, nos places sont limitées, il n'y a que 10 places à prendre, réservez au plus vite. Vous pourrez bien sûr passer toute l'après-midi dans nos locaux, jeter un petit coup d'œil, faire vos curieux et découvrir une imprimante 3D en vrai.
Donc voilà. les 10 chanceux, ils vont pouvoir imprimer des choses.
Oui, il y aura du coup super. Des ordinateurs mis à disposition, il y aura vraiment de la création.
D'accord, les bibliothécaires peuvent s'inscrire aussi
Pourquoi pas ?
Peut-être pas prioritaire pour le coup, on verra, mais...
On verra comment on remplit.
Tu travailles le samedi après-midi ?
Oui, je travaille. Tant pis pour moi.
Donc n'hésitez pas surtout à réserver parce que les places risquent d'être prises d'assaut assez rapidement. Voilà. Et tout ça est gratuit, bien entendu.
D'accord. Oh, c'est dingue, t'aimes pas lire ? T'as pas lu Proust ? Oh là là, je te crois pas.
Nous avons donc aujourd'hui présenté nos coups de cœur pour l'année précédente. On les a adorés en 2018, nous vous proposons de les découvrir en 2019. Donc rendez-vous dans vos bibliothèques et librairies préférées. Délivrez-vous revient le mois prochain, le 12 février pour être précis, autour du thème de l'amour, Saint-Valentin oblige. D'ici là, on vous attend pour la nuit de la lecture à Verneuil et la semaine du numérique à Breteuil. On espère vous voir beaucoup.
N'oublions pas non plus, mais c'est pas en attendant, mais deux jours après notre émission, il y aura la projection à Danville d'un film pour la Saint-Valentin.
Donc notez-le dès maintenant sur vos agendas.
À bientôt.
À très bientôt.
C'est bien ici la bibliothèque municipale ?
Oui, monsieur, c'est ici.
Waouh, c'est beau, hein, c'est super bien décoré, c'est vraiment beau, ouais.
Est-ce que je peux vous aider?
Ah bah vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, bah je souhaite ça à personne.
C'est pour ça que je dis jamais rien. C'est un vrai piège à con cette histoire-là. En plus, je sais pas lire. You up in Pelton.